civisme et droit du citoyen pour connaître ses droits, maîtriser ses devoirs et ses obligations.
Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent ?
Civisme et droit du citoyen, une émission pour un développement endogène du citoyen et de la société. Civisme et droit du citoyen, une émission de la web radio Awevi présentée par Spero Maoulé. Soyez au rendez-vous tous les mardis à 17h, rediffusion tous les dimanches à 14h. Awevi Info, l'information comme si vous y étiez.
Bien chers auditeurs de Awevi Info, nous voici à l'heure de notre émission habituelle « Civisme et droits du citoyen ». Civisme et droits du citoyen, 50 minutes ensemble pour parler de la chose juridique, pour parler de la citoyenneté, pour parler du civisme. Civisme et droits du citoyen, c'est ensemble tous les mardis et tous les dimanches. Bien de choses à vous. De Awevi Info, à notre émission de civisme et droits du citoyen, nous avons décidé de parcourir pour mieux comprendre ce que nous mettons dans la nouvelle constitution qui a été promulguée en 2024. Nous avons pris dans un premier temps le préambule, nous l'avons analysé et nous avons tiré la vraie conclusion qu'il n'y a pas une très grande différence entre la Constitution de 92 et celle de 2024 en ce qui concerne le préambule. Il n'y a pas de changement majeur. Il y a eu évidemment des avancées, mais pas de changement profond, en tout cas au niveau du préambule. Nous allons aujourd'hui continuer en prenant le titre 1 de la Constitution de 2024 qui fixe les bases, qui fixe les fondements de l'État togolais. L'État est une notion juridique qui désigne essentiellement la population, le territoire et le pouvoir organisé qui s'exerce sur les deux premières notions. Il fonctionne avec des institutions qui en sont les organes. Ces institutions tirent leur légitimité de la constitution qui les crée. Et c'est cette même constitution qui garantit la souveraineté de cet État relativement aux autres États et institutions internationales. C'est pour cette raison qu'il est fondamental de proclamer l'État et la souveraineté de l'État dans la Constitution. Ce que ne manquent pas de faire les constituants de 1992 et de 2024 qui ont consacré le titre 1 des deux constitutions à l'État et à la souveraineté après les avoir énoncés dans les préambules. La nouvelle constitution, celle de 2024, met dans ce titre 7 articles alors qu'il y en avait 2 de plus dans la constitution de 1992. Nous allons, dans notre émission d'aujourd'hui, essayer de voir les implications et intérêts des contenus de ce titre 1 à travers les deux constitutions, les deux dernières constitutions, c'est-à-dire celle de 92 et celle de 2024. Pour cet exercice, nous avons non plus un invité, mais un ami. Il s'agit de notre ami Tanyami Essosinam. Il est juriste de formation. Il est directeur exécutif, je traîne un peu d'ajouter, avant d'ajouter adjoint, de la clinique Séjus. Et donc, il a été à plusieurs reprises avec nous pour nous aider à comprendre les notions de droit, les notions de civisme, les notions de citoyenneté dans un français accessible à nos auditeurs en essayant, dans la mesure du possible, de faire comprendre le message contenu dans la loi. Et donc, c'est lui qui est encore là avec nous ce soir. Alors, M. Tanyami, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
J'espère que la santé est revenue complètement.
La grâce.
OK, donc espérons que la grâce fera que cette maladie ne reviendra plus jamais. En tout cas, on sera toujours malade tant qu'on est un homme, mais que les effets ne soient pas aussi graves que la dernière fois. Nous Merci. Voudrions parler donc de du titre 1 de la Constitution de 2024, 7 articles pour celle de 2024 et 9 pour 1992. Déjà, est-ce que ça préfigure quelque chose de différent?
Bon, déjà pour un analyste, déjà d'un point de vue formel, on peut voir un peu l'esprit dans lequel s'inscrit le conscient. L'esprit serait d'alléger la conscient et de libérer la Constitution de certaines mentions qui seraient, selon lui, inutiles à figurer dans une Constitution. Donc, cela peut aussi avoir une lecture politique. Donc, dans la lecture politique, on peut aussi dire que le fait de réduire les articles de la Constitution peut s'inscrire dans une logique de supprimer certaines dispositions qui paraissent un peu embarrassantes par rapport au pouvoir. Donc, je crois qu'en analysant un peu les dispositions de la Constitution qui nous concerne, nous verrons un peu dans quel schéma s'était inscrit le Constituant togolais, en tout cas le Constituant de 2024.
Je pense qu'il n'est pas utile de rappeler que notre démarche est purement scientifique, est purement juridique, et que notre volonté, ce n'est pas de dire laquelle des deux est la meilleure, mais d'analyser les deux et de voir ce qui est plus facile à réaliser et ce qui peut être difficile à comprendre par nos auditeurs de droit civisme et droit du citoyen. Alors, le premier article de ce titre 1 prône l'indivisibilité de l'État togolais et une organisation décentralisée. Alors, ces deux notions-là, est-ce qu'il n'y a pas une opposition entre les deux, une division? Ça veut dire qu'on doit être ensemble. Décentralisation, ça veut dire qu'on doit encore se départir des pouvoirs. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Ou alors, qu'est-ce qu'on doit y comprendre?
D'accord. Dans une compréhension un peu littéraire, on peut estimer qu'il y a eu une contradiction entre les termes. Mais quand nous revenons sur le terrain juridique, on ne voit pas de contradiction. À la limite, une petite contrariété entre les termes. D'abord, d'un point de vue juridique, quand on dit que quelque chose est indivisible, c'est qu'on ne peut pas partager la chose sans que la chose ne disparaisse. Dans le partage de la chose sera amenée à disparaître. Donc, si le territoire ou le pays, la République, était divisible, c'est que lorsqu'on va démembrer le territoire, le Togo lui-même n'existerait plus. Donc, en disant que la République est indivisible, c'est déjà protéger le pays contre cet aspect-là, ne pas en arriver à cette situation où on démembrerait le territoire sans que le Togo lui-même n'existe. Donc, le principe de l'indivisibilité, d'un point de vue encore plus juridique, voudrait garantir l'unité normative, c'est-à-dire que lorsqu'on adopte une loi, la même loi doit être celle qui s'applique sur tout l'ensemble du territoire. Lorsqu'on commence par démembrer un territoire, on peut en arriver à cette autonomie des démembrements où il y a chaque localité qui fait sa loi, donc il n'y a pas une unité normative. Là, on est dans un démembrement véritable du territoire. Mais on dit que notre République doit être indivisible. Ça veut dire que le même pouvoir doit s'appliquer à tous les citoyens, où qu'ils soient sur le territoire, et puis les mêmes lois doivent leur être appliquées. Cela voudra dire que si nous avons une constitution, c'est la même constitution qui s'applique à tout le monde sur le territoire. Si le Parlement adopte une loi, c'est la même loi qui va s'appliquer à tous les citoyens qui sont sur le territoire. Maintenant, est-ce que le principe de la décentralisation contredit l'indivisibilité prônée par la Constitution? A priori, on peut dire que oui, mais a posteriori, on voit qu'il n'en est rien. D'abord, expliquons un peu ce que c'est que la décentralisation. La décentralisation, c'est ce mode d'organisation administrative du territoire qui amène à reconnaître à certaines démembrement du territoire, une autonomie de gestion et une libre administration. D'ailleurs, ce sont les deux grands principes de la décentralisation, l'autonomie de gestion et puis la libre administration. Avant peut-être d'en arriver à la décentralisation, on peut expliquer un peu comment est-ce que l'État s'organise? D'abord, il y a un pouvoir central qui s'applique sur tout le territoire. Seulement, comme quand un territoire est généralement vaste, il est difficile pour le pouvoir central d'avoir une bonne appréhension des réalités locales. Du coup, pour une proximité entre le pouvoir central et le pouvoir et les réalités locales, les citoyens, on va en arriver à ce système d'administration qu'on appelle la déconcentration. Ce système-là permet au pouvoir central de reconnaître à certaines autorités qu'il nomme pour le représenter dans les localités pour que ces autorités nommées-là puissent lui servir de relais dans les prises de décision. En ce moment, on estime que l'autorité nommée au plan local qui représente le pouvoir central, est en contact direct avec les populations, connaît leur réalité et pourra prendre des décisions qui sont conformes à leur réalité. Pour être pratique et rapprocher ce que nous disons de nos réalités, il s'agit des préfets. C'est-à-dire que le pouvoir central nomme un préfet. Le préfet représente le pouvoir central dans la préfecture. Donc, le préfet va essayer de prendre des décisions au nom du pouvoir central au niveau de sa préfecture. C'est pour éviter que toutes les décisions ne soient prises au niveau du centre, Donc, il faut que le centre soit un peu proche des populations. Mais là encore, on va voir un peu les limites de ce mode d'administration. C'est là qu'on évolue vers la décentralisation, où on prône une sorte de démocratie locale. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. En ce moment, on dira le gouvernement de la population locale, par la population locale et pour la population locale. En cela, on va dire que les populations locales ont droit elles-mêmes d'élire leurs dirigeants. Et ce sont ces dirigeants-là qui vont administrer les localités. Donc, la libre administration, ce n'est pas le pouvoir central qui va prendre les décisions qui s'appliquent au plan local. Ce sont les autorités élues par les localités elles-mêmes qui vont prendre les décisions. L'autonomie de gestion, les fonds qui vont permettre de développer les localités ne vont plus nécessairement venir du budget central, mais on reconnaît à ces collectivités-là une autonomie de gestion en cela qu'elles ont un budget autonome qui leur permet d'assurer eux-mêmes leur développement. Mais là, c'était juste des explications. Pour ramener toutes ces explications à la notion d'indivisibilité, de décentralisation, c'est dire que l'autonomie-là qu'on reconnaît à ces collectivités-là, ce sont des autonomies qui sont reconnues par la loi elle-même. Ce n'est pas la Constitution qui reconnaît à ces collectivités-là cette autonomie. Certes, le principe lui-même, comme nous le voyons, ressort de la Constitution, mais d'abord, la possibilité de démembrer les territoires ressort de la loi et puis l'autonomie reconnue également à ces collectivités locales-là ressort de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'au plan local, les autorités-là n'ont pas le pouvoir elles-mêmes d'édicter encore d'autres lois qui seraient différentes des lois votées par le Parlement. Ce sera la même loi qui va s'appliquer à tous les citoyens, seulement d'un point de vue administratif, il y aura des autorités qui auront encore une liberté d'action au plan local. Donc fondamentalement, l'indivisibilité reste toujours, seulement au niveau de l'administration, il y a de petits aménagements.
L'indivisibilité demeure puisque le pouvoir central, c'est lui qui détient tous les pouvoirs, mais qui délègue une certaine partie de ce pouvoir-là à d'autres autorités, mais qui sont parfois élus ou parfois nommés par eux, parfois élus par le peuple et parfois nommés par eux. Mais est-ce que dans un petit pays de 56 000 km carrés, on est tenu de faire cette distinction-là encore? Est-ce qu'un pouvoir central ne peut pas tout simplement gérer le tout?
La question se pose, puisque nous voyons ailleurs des communes qui ont des superficies plus grandes que la superficie de notre pays, mais qui sont gérées, d'ailleurs, ce sont des communes, donc qui sont gérées directement par des autorités. Mais chaque État a son histoire. Chaque pays a son histoire. Nous avons vu un peu comment notre pays a été géré depuis les indépendances, quels ont été les systèmes d'administration jusqu'alors, et nous pouvons en faire le bilan et voir quels sont les impacts sur le développement. En ce moment, si nous voyons, et nous l'avons vu, qu'il n'y a pas eu un développement effectif et qu'il y a certaines zones qui sont plus développées que d'autres, ce qui pousse à des mobilités humaines vers les zones urbaines et puis l'abandon des fermes et puis un ralentissement de l'agriculture. Donc, on peut faire une analyse un peu holistique de la situation et essayer de voir est-ce que ces systèmes-là, si nous continuons dans ce système, est-ce que nous allons assurer le développement du pays. En cela, nous sommes revenus, puisque l'idée de la décentralisation n'est pas récente, elle date seulement qu'elle a été abandonnée, puisque après nous avons eu les délégations spéciales. Nous sommes revenus à partir de 2007 à cette idée de décentralisation avec une loi qui avait été adoptée en 2007 et nous savons que l'opérationnalisation véritable s'est faite à partir de 2019 où nous sommes dans une expérience nouvelle de la décentralisation. Actuellement, on ne va pas nier que nous connaissons des difficultés. Mais je crois que c'est avec des difficultés que nous allons apprendre les leçons et puis essayer de mieux faire. C'est vrai qu'on peut reprocher des choses à la décentralisation, mais nous n'en sommes qu'au début. Il faut seulement que nous tirons les meilleures leçons des premières expériences que nous faisons en vue d'aménager notre décentralisation pour assurer un développement pour l'avenir. C'est pour dire, on a le choix entre la déconcentration et la décentralisation, mais après avoir fait le bilan, le politique a estimé qu'il faut aller à la décentralisation et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter. Je crois que nous allons également avoir un œil assez attentif sur la décentralisation et puis voir ce que ça va donner.
Est-ce que l'indivisibilité de l'État joue également par rapport aux ambassades et représentations diplomatiques dans les autres pays?
Oui, les ambassades représentent l'État. En fait, c'est l'ambassade dans un autre État a des statuts bon, gérés par le droit international puisque il y a les principes d'inviolabilité et autres. Mais bon, ce n'est pas le prolongement en réalité de l'État dans un autre État, mais c'est à partir des conventions internationales que certaines règles de représentation des États ont été assises. C'est pourquoi, véritablement, lorsqu'il y a crise diplomatique entre les États, facilement, un État peut remercier les ambassadeurs de... Bon, voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de, d'acquis.
D'intangible.
D'intangible, voilà.
On va lui demander de quitter le pays.
Tout à fait.
OK. Mais ce qui est sûr, c'est que la Constitution, les constitutions d'ailleurs de 92 et de 2024, ont dit que le Togo est indivisible. Il n'y a qu'un seul Togo et dans lequel se trouve les citoyens togolais et d'autres citoyens qui sont peut-être pas des Togolais, mais qui y vivent et donc ils ont des résidences. Et c'est pour ça que l'article 2 va revenir pour dire qu'en principe, il y a l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans discrimination ni distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe, de handicap, de statut social ou de religion, etc. Donc, en clair, elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques et religieuses. Est-ce qu'il faut conclure que la Constitution de 2024 exige ou alors recommande qu'il y ait une liberté d'expression?
Bon, d'accord. D'abord, une petite clarification notionnelle. Dans les propos introductifs, vous avez dit que l'État, c'est un territoire, une population, un pouvoir organisé. Quand on parle de la population, elle est un peu vaste, elle englobe tous ceux qui sont sur le territoire. Sur cette population-là, il y a des étrangers et puis il y a, dans la population, il y a les étrangers, il y a les citoyens. On peut même parler des nationaux parce que les termes semblent renvoyer parfois à la même chose, mais ce n'est pas la même chose. L'étranger qui est dans la population, bien qu'il soit dans la population avec le citoyen, il ne désigne pas la même chose. Et puis, l'étranger, sa situation est encore un peu plus claire, puisqu'on dit que c'est l'étranger, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui est résident sur le territoire. Maintenant, quand on prend même le national, les nationaux et les citoyens, on peut encore faire un distinguo. Parce qu'un citoyen est nécessairement un national, mais tous les nationaux ne sont pas des citoyens. Alors, quelqu'un qui se retrouve en prison, qui est déchu de ses droits civiques et autres, cette personne-là, bien qu'étant un national, parce que bénéficiant de la nationalité togolaise, on ne va pas dire de cette personne-là qu'elle est un citoyen, parce qu'en ce moment, elle a perdu ces droits civiques, c'est-à-dire que c'est le propre du citoyen. Maintenant, quand la Constitution parle de citoyen, il faut comprendre véritablement le citoyen dans le sens strict de citoyen. Parce que on peut être national, mais à un certain moment donné, on peut ne pas avoir un certain nombre de droits à revendiquer. Donc, si on veut l'interpréter dans un sens large, quelqu'un peut à un moment dire que la Constitution dit que tous les citoyens ont droit à ci, j'ai droit à ci, alors qu'en ce moment, elle a été condamnée par une décision de justice qui le prive d'un certain nombre de droits, donc à ne pas revendiquer. Alors, quand nous revenons aux citoyens maintenant, au sens strict que nous l'avons expliqué, il faut comprendre que la Constitution est en train d'abord d'éliminer toutes sortes de discriminations entre les citoyens. Parce que nous sommes un État multinational. Un État multinational parce que nous sommes constitués de beaucoup d'ethnies et autres. Donc, il faut déjà un ancrage constitutionnel à la protection des différents citoyens, quelle que soit leur origine. Maintenant, également, il y a la question de sexe et autres. La liberté d'expression. La Constitution est en train de garantir également la liberté d'expression pour tous les citoyens parce que c'est un élément fondamental pour le développement d'un l'État, mais aussi pour l'enracinement de la démocratie.
Oui, mais lorsque l'État, la Constitution, l'article 2, dit que la République togolaise assure l'égalité devant la loi à tous ses citoyens, est-ce que c'est peut-être, enfin, par rapport à la discrimination, est-ce qu'en réalité, il y a encore une distinction entre les citoyens à effectuer? Parce qu'à ce moment-là, c'est que vous soyez en prison, que vous soyez déchu de vos droits, vous êtes quand même protégé par la Constitution togolaise.
Oui, mais bon, je ne sais pas en quel sens vous...
C'est-à-dire qu'à mon sens, oui. Dès que vous êtes sur le territoire togolais, vous avez ce respect-là de la loi togolaise, quel que soit votre rang, quelle que soit votre ethnie, quel que soit, etc., etc.
Non, quand nous parlons des citoyens, il faut l'entendre dans le sens strict de citoyens. Mais le Togo protège les droits de l'homme, puisque le Togo a ratifié plusieurs conventions internationales d'ailleurs qui protègent les droits de l'homme. En ce moment-là, c'est les droits de toute personne résidant sur le territoire togolais. Donc, il n'y aura pas de distinguo à faire entre le Guinéen ou un étranger qui est sur le territoire parce qu'étant un être humain, il a un certain nombre de droits. Mais quand nous revenons aux citoyens, il faut vraiment l'entendre en ce sens parce que l'entendre autrement, comme je le disais tantôt, peut donner lieu à des confusions. C'est à ce titre d'ailleurs également qu'il faut voir aussi les détenus. Les détenus, avant d'être détenus, sont des hommes et en tant qu'êtres humains ont un certain nombre de droits qu'il ne faudra pas bafouer. Et le Togo est d'ailleurs aussi... partie à des conventions qui reconnaît les droits de ces personnes qu'il faudra respecter.
Il y a une phrase que tout le monde a, une définition que tout le monde assimile à la démocratie, qui est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. On voit que cette phrase a été reprise dans l'article 2. Est-ce à dire que le Togo est rentré résolument dans une démocratie à l'occidentale, comme on l'appelle?
Bon, est rentré, c'est comme si c'est une formule nouvelle. Dans les anciennes constitutions également, nous avions cette formule. Je crois que la démocratie, c'est un chemin, c'est un cheminement. Donc, nous sommes en train de faire ce cheminement. Et voilà, peut-être le fait que le conscient réitère la formule dans la constitution exprime son attachement à ce mode de gouvernance, donc un gouvernement, une gouvernance démocratique, cela voudra dire qu'il faudra juste laisser le peuple être devant de l'action politique, que le peuple soit à l'origine du pouvoir, que le peuple soit la source de légitimité des différents pouvoirs de l'État. Donc nous allons espérer que cela soit le cas et de la manière la plus transparente possible.
Gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple et respect des opinions politiques, philosophiques, religieuses, c'est-à-dire que désormais les restrictions légales à ces libertés-là doivent être vues comme anticonstitutionnelles.
D'un point de vue constitutionnel, oui. Dès lors que ces libertés sont garanties, il n'y a aucun droit. Aucun droit pour une entité dans l'État de les restreindre. Mais il peut y avoir des restrictions prévues par la loi. En dehors de ces restrictions prévues par la loi, normalement, toute restriction est inconstitutionnelle. Pourquoi on les appelle d'ailleurs des libertés fondamentales? Parce qu'elles ont un ancrage constitutionnel, donc protégé au plus haut niveau. Donc, le souhait, en lisant la Constitution, c'est que les acquis à la matière puissent se consolider, puisque là encore, comme je le disais, la démocratie, c'est un chemin qu'on fait, c'est un cheminement. Nous sommes partis de loin pour en arriver ici, et il faut souhaiter que ce qui est acquis ne soit remis en cause, mais plutôt que cela soit consolidé. Dans un passé lointain ou je ne sais quoi, il serait difficile de parler même de la liberté d'expression en elle-même, c'est-à-dire avoir la liberté de parler de la liberté d'expression n'était pas évident. Mais aujourd'hui, il y a la liberté de parler de la liberté d'expression. Je crois que c'est déjà une avancée. Mais c'est vrai que par rapport à la pratique que les gouvernants ne dénient pas, on peut se poser des questions sur un certain nombre de choses. En suivant l'émission de la TVT sur la Constitution qui a rassemblé les acteurs politiques, avec les acteurs politiques, avec le professeur Dosset. Le professeur Dosset avait évoqué un certain nombre de restrictions de l'espace physique, l'espace civique, en donnant des exemples bien précis. Je crois que tous les acteurs qui étaient là n'ont pas dénié le fait, mais ont souhaité que la nouvelle Constitution qui arrive avec les garanties constitutionnelles qui sont prônées permette au système politique de fonctionner mieux en ce sens et qu'on n'en arrive plus à ces genres de restrictions. Donc, ici également à ce plateau, je crois que nous allons rester dans ce même souhait et faire appel aux acteurs politiques pour aller dans le sens de la consolidation des acquis démocratiques que nous avons. Et je crois que la liberté d'expression, en tout cas, sa consolidation sera un élément majeur dans la consolidation de la démocratie elle-même.
Précisons quand même que nous ne sommes qu'au titre 1 et qu'il se pourrait que dans une autre disposition de la même constitution, on ait prévu quelques petites limitations déjà à ces libertés qui semblent être assez grandes par l'article 2 de la Constitution de 2024. Mais à l'article 3, on semble remettre les symboles de l'État à la portée de la loi. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Puisque l'article 3 dit que les dispositions définissant le sceau de l'État, les armoiries, l'emblème et la langue officielle sont du domaine de la loi. Est-ce que ce n'est pas faire dégrader ces signes représentatifs du pays en les confiant à la loi?
Non, pas du tout. En tout cas, ce n'est pas notre avis. Ce n'est pas notre avis. La loi, elle est sacrée. Elle est sacrée, donc confier quelque chose à la loi et parler de désacralisation, ce n'est pas notre avis. C'est vrai que la loi n'est plus aussi sacrée qu'elle était auparavant, mais il faut dire que ce n'est pas non plus quelque chose de très très nouveau. Ce n'est pas notre constitution, en tout cas la constitution de 2024 seule, qui se situent dans ce schéma. Il y a d'autres conditions dans d'autres états également qui ne donnent pas, qui n'accordent pas une place à ces symboles au niveau de la conscience pour dire que ces symboles n'y ont pas un ancrage conscientionnel. Pour autant, ces états ne cessent, ne sont pas moins démocratiques et ne connaissent pas moins des développements. Donc, peut-être qu'en faisant une comparaison formelle entre les deux consciences, on pourra s'inscrire dans la logique d'allègement de la conscience. C'est-à-dire que le conscient a voulu renvoyer les détails au niveau de la loi parce que, au niveau de ces emblèmes, il faudra décrire les différents éléments, les symboles et autres. Et puis, ça fait beaucoup dans la conscience. Et puis, le conscient peut estimer qu'on peut renvoyer ces éléments-là au niveau de la loi. Déjà que la conscience en renvoie ainsi reconnaît que le pays a un certain nombre de symboles, mais que cela va relever de la loi. Donc, c'est notre avis sur la question. Ça ne participe pas à dégrader aucunement, mais peut-être à alléger. Le seul peut-être inconvénient, c'est la modification. Au niveau des symboles, si les symboles sont contenus dans la conscience, les modifications vont nécessiter des procédures lourdes. Parce que la conscience elle-même, pour la modifier, bon, cela nécessite des procédures lourdes. Alors qu'au niveau de la loi, lorsqu'il y a lieu de modifier, cela ne nécessite pas des procédures assez compliquées. Donc, si nous estimons que nos symboles sont intangibles, qu'on ne doit pas les modifier, on peut trouver ça un peu dégradant qu'on les déplace de la conscience vers la loi parce qu'on peut dire que c'est la conscience qui garantit mieux leur intangibilité. Mais si nous voyons nous-mêmes que ce ne sont pas des choses intangibles et qu'on peut les modifier en fonction de certaines aspirations nouvelles de nos états, bon, les renvoyer vers la loi n'est pas une démarche aussi dégradante que ça.
Est-ce qu'on peut envisager qu'un jour nous allons prendre une nouvelle langue officielle?
Déjà que nous sommes en train de rentrer dans le Commonwealth, ce ne sont pas envisagés, ces hypothèses ne seraient pas une bêtise. Et en plus, par rapport à notre histoire conditionnelle, nous n'avions pas comme hymne national l'hymne que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire que tout peut être sujet à évolution. Voilà.
Mais pour le moment, la constitution de 2024 reconnaît que la devise demeure toujours « Travail, liberté, patrie », que la fête nationale doit être célébrée le 27 avril de chaque année et que l'hymne national demeure la terre de nos aïeux. Donc des acquis qui montrent que le pays est demeuré toujours avec ses principes fondamentaux et que c'est peut-être les dispositions les mises en application, les mises en œuvre qui peuvent parfois faire l'objet de modifications légales. Espérons que ça va demeurer puisque les fondements de la Constitution donnent la garantie de la stabilité d'un pays. L'article 4, allons à l'article 4 donc, dispose que le gouvernement est civil. C'est écrit clairement dans l'article 4. Que le gouvernement est civil. Est-ce à dire que le militaire ne peut pas être chef d'État?
Chef d'État, chef de gouvernement, c'est deux choses différentes. Déjà, le gouvernement, c'est le Premier ministre et son gouvernement, et puis le chef de l'État, dans le régime parlementaire, c'est le président de la République.
Oui, dans la mesure où l'article 4 dit que le gouvernement est civil, donc je crois que c'est tout le corps gouvernemental.
Le corps gouvernemental composé du Premier ministre et des ministres, mais pas du président de la République.
Dans cette nouvelle constitution, c'est le chef, c'est le chef du gouvernement.
Oui,
il y a un président de la République.
Tout à fait. Mmh. Le président de la République reste le chef de l'État.
Oui.
Voilà. Et puis, le gouvernement sera constitué du président du Conseil, comme le dit la nouvelle constitution. Mmh. Et puis, les ministres qui font partie de ce conseil-là. Donc, on va comprendre cette disposition-là dans ce sens stricto sensu. Et maintenant, la question serait de savoir, est-ce qu'un militaire ne peut être ni Premier ministre, ni président du conseil,
ni ou ministre.
Bon, la réponse ne peut pas être non dans l'absolu. A priori, on peut dire non, mais ça ne peut pas être dans l'absolu parce que le militaire peut cesser d'être un militaire à tout moment. Donc, lorsqu'il est demeure militaire, la réponse reste non. Il ne peut pas faire partie du gouvernement. Par contre, s'il désire faire partie du gouvernement, il devient comme un civil. Ce sera de démissionner. Je crois que nous ne manquons pas d'exemple puisque M. Diéry Thaman était un officier et pour faire la politique, il a démissionné.
Oui, c'est mais il n'est pas entré dans le gouvernement.
Bon, là, c'est des exemples que
prenons
nous donnons.
Prenons le général Yark.
Oui, c'est ce à quoi nous voulons en venir. C'est-à-dire que nous avons aussi des contre-exemples où nous avons des autorités qui ne sont pas civiles, mais qui font carrière en politique.
Oui, mais est-ce que c'était interdit avec la Constitution de 92? Je ne crois pas.
Nous n'avions pas fait attention, mais oui. Dans la Constitution de 92, je ne crois pas avoir les lignes disponibles. Mais je crois que le droit positif ne le permettait pas. Bon, ça, c'est à vérifier. Puisque cela ne se limite pas seulement à la Constitution, il faut également voir le statut des corps auxquels ils appartiennent pour voir quelles sont les autorisations qui sont permises. Je crois que s'il était permis de faire la politique en étant militaire, l'officier Diéry Thaman n'aurait pas été obligé de démissionner avant de rentrer dans la politique. C'est un acte éminemment civil, donc il faut le faire en étant civil. Je crois que c'est aussi pour éviter ces choses à l'avenir. C'est pourquoi le Constituant a voulu l'inscrire en blanc sur noir en disant que le gouvernement sera désormais civil. Donc, c'est pour l'opposer au gouvernement militaire. Nous savons qu'il y a des gouvernements qui sont composés de militaires dirigés par des militaires. Mais un gouvernement civil, c'est un gouvernement composé de civils. Donc, il n'y a pas de militaire dedans. Et s'il y a un militaire, c'est un militaire qui a démissionné, qui a réformé, qui devient civil.
Donc, il y a possibilité pour un militaire de devenir membre du gouvernement, mais à condition que ce ne soit pas avec son titre de militaire. Ok, nous verrons. Et il y a un autre article qui a rappelé le suffrage universel égal et secret. Il peut être direct ou il peut être indirect. Et on reconnaît la possibilité à tous les citoyens togolais des deux sexes qui sont majeurs conformément à la définition de la loi et qui jouissent de leurs droits civils et politiques de pouvoir être électeurs. Mais une nouvelle modification est que l'initiative populaire du référendum n'est plus directement organisée par la nouvelle constitution, mais que ça doit passer par une loi organique. Qu'est-ce que ça signifie concrètement et quelle en est la portée?
Oui, bon, ça veut dire que déjà on reconnaît une initiative populaire, la Constitution reconnaît une initiative populaire, seulement que la Constitution ne veut pas gérer les conditions de l'organisation de ces initiatives populaires. La Constitution renvoie juste à la loi organique. Ça veut dire que c'est la loi organique qui va déterminer les conditions de validité de cette initiative populaire-là. Je crois que c'est tout ce qu'il faut en noter. Peut-être préciser que la loi organique, c'est une loi qui vient compléter la Constitution en déterminant les conditions de fonctionnement et d'organisation des pouvoirs politiques. Elle est située un peu au-dessus de la loi ordinaire. Donc, je crois qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter. Maintenant, s'il faut en faire une analyse politique, peut-être que, vous voyez, dans nos pays, y compris même les politiciens, les gens n'ont pas trop des regards sur les lois organiques. Les lois organiques sont pourtant des lois très, très importantes lorsqu'il faut faire des calculs politiques et autres. Malheureusement, les gens ne tiennent pas compte des lois organiques. Voilà. Bon, c'est aussi pour dire que les gens doivent faire attention aux lois organiques. On ne va pas aller loin dans l'analyse politique. Je crois que c'est déjà bon ce que nous avons dit. Il faut faire attention aux lois organiques parce que beaucoup de choses se jouent à travers les lois organiques. Et les modifications des lois organiques peuvent passer chambouler le système politique d'un État alors que les gens sont trop concentrés sur les modifications constitutionnelles. À côté, il y a des lois encore très importantes qu'on appelle des lois organiques, dont les modifications, bien que ne faisant pas l'objet de tollés, de shows médiatiques, peuvent chambouler le système politique. On peut changer les lois organiques pour jouer sur les élections, pour jouer sur l'acquisition ou la conservation du pouvoir, la conquête ou la conservation du pouvoir. Donc, la loi organique, c'est une loi très, très importante. Elle a un lien très étroit avec la Constitution. Malheureusement, les acteurs politiques n'ont pas un regard très attentif sur ces lois. Bon,
Oui, mais dans la mesure où la loi organique vient expliquer, compléter ou interpréter la Constitution, il est normal qu'on regarde ça de très près parce qu'elle est supérieure à une loi ordinaire.
Tout à fait. Ah, mais comme je le dis, les lois, la modification des lois organiques, en tout cas, je ne me rappelle pas qu'une modification de loi organique ait fait l'objet de shows médiatiques comme les modifications constitutionnelles. Alors qu'il y a eu, qu'il y a des modifications de loi organique vraiment stratégiques qui auraient pu donner lieu à des discussions vives. Mais bon, ce n'a pas été le cas.
Alors, un dernier élément de ce titre 1, c'est évidemment les partis politiques. La nouvelle constitution a réitéré le fait qu'il y ait multipartisme en disant que les partis politiques doivent concourir à la formation et à l'expression du suffrage et qu'ils se forment et exercent leur activité librement dans le respect des principes de la souveraineté et de la démocratie. Ils contribuent à l'éducation nationale et civique des citoyens, à la consolidation de la démocratie et d'unité nationale. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que ça ne ferait pas mieux qu'on puisse limiter le nombre de partis politiques par rapport au débat que nous avons déjà eu sur ce plateau-là?
Non, le pluralisme politique déjà interdit la limitation des partis politiques. Donc la liberté
d'association.
Donc ce serait une entorse à la démocratie que de limiter la création des partis politiques. Mais à la limite, comme nous le disions, on peut rationaliser le système politique de manière à contraindre les partis politiques à se constituer en pôle ou à créer des grands partis. Et ça, c'est possible, mais limiter la création des partis politiques. Donc, ce serait même une manière de limiter la création des partis politiques, mais de manière indirecte, sans faire entorse au principe démocratique. Donc, laisser les partis politiques se créer s'ils le veulent, tout en sachant qu'ils n'auront aucune chance sur le système politique si le système politique est bien rationalisé. En ce moment-là, c'est qu'il faudra vraiment une entente politique. Parce que comme nous l'expliquions, la politique est mue par un certain nombre de dynamiques. La dynamique de la conquête du pouvoir, la dynamique de la conservation du pouvoir. Donc, c'est pourquoi je dis, pour en arriver à cette rationalisation, il faut vraiment un grand sursaut. Il faut une grande entente politique. Je suis en train de le dire par rapport à notre système politique actuellement qui est très, très déséquilibré et fragile. Donc, pour pouvoir en arriver là, il faut encore des efforts supplémentaires.
Et des efforts supplémentaires. Mais mon souci, c'est que le même article 7 interdit, et ça, c'est vrai que l'histoire de notre pays demande cette interdiction de se constituer avec des relents ethniques ou régionalistes ou religieux. Oui, mais est-ce que dans la pratique, est-ce que on peut vraiment croire que cette disposition-là peut marcher? Est-ce qu'il est envisageable dans nos pays où les gens se sentent solidaires par rapport à leurs frères de même région? Est-ce que c'est sûr que l'article qui dit on ne veut pas identifier un parti à une religion ou à une région, est-ce que ça peut passer?
Vous savez, toute disposition de la Constitution ou toute disposition d'une loi peut faire l'objet d'un contrôle. Seulement, le contrôle peut être difficile. Seulement, le juge va définir les critères pour opérer son contrôle de manière vraiment claire. Mais déjà, nous pouvons déjà essayer de voir dans le droit positif pour voir quels sont les éléments qui existent dans le droit positif qui nous permettent d'avoir une idée un peu plus claire sur l'opérationnalisation d'une telle disposition. Quand nous considérons un peu la charte politique, même dans la loi portant statut de l'opposition, on voit un peu ces questions d'ethnie revenir où il est fait obligation au parti de l'opposition de ne pas encourager les relents ethniques dont vous avez fait mention. Mais quand nous venons également sur la loi portant charte politique, elle a été modifiée. Moi j'ai lu le projet de modification, je ne sais pas si finalement ça a été adopté, mais quand on considère même ce projet-là de loi de modification, on voit un peu les inquiétudes qui ont été relevées par le Constituant finalement dans cette Constitution de 1924. Vous voyez, dans la charte politique...
De 2024.
Dans la charte politique même qui date d'une loi de 1991, pour créer un parti politique, vous pouvez être au nombre de 30. Et puis, les deux tiers viennent des préfectures, de différentes préfectures. Seulement, dans cette loi-là, on dit qu'elle est considérée comme membre ou bien est considérée comme venant d'une préfecture, quelqu'un qui a résidé au moins 5 ans. Mais dans la modification, d'abord, on porte le nombre de personnes pouvant créer le parti politique à 60. Les explications, c'est que la population a augmenté, donc il faut... Et puis, bon, le nombre de personnes également, d'abord c'est 60, maintenant il faut que deux tiers de personnes viennent de préfectures différentes. Maintenant, la différence, ça peut paraître anodine, mais elle est très fondamentale s'il faut l'interpréter par rapport à ce que nous sommes en train de dire. La différence, c'est qu'on ne considère pas comme quelqu'un qui vient d'une préfecture, quelqu'un qui a résidé pendant 5 ans. La nouvelle modification dit pour celui qui vient d'une préfecture doit être véritablement originaire de la préfecture. Ça veut dire que quelque part, il y a des inquiétudes ethniques derrière ça. On suppose que quelqu'un qui est originaire d'une telle préfecture, c'est que cette personne est originaire d'une ethnie de cette préfecture. Et cela voudra dire qu'en réalité, les deux tiers des 60 personnes qui vont composer le parti politique doivent être originaires d'ethnies différentes. Je ne sais pas un peu si vous comprenez.
Oui, non, moi, il n'y a pas de problème pour moi. C'est à nos auditeurs de bien pouvoir comprendre ce que nous exprimons. Mais si mon inquiétude par rapport à la situation pratique de cet article 7-là n'est peut-être pas si visible, ou alors il faut forcément la combattre avec le régionalisme, il y a quand même l'aspect religieux. Est-ce que, par exemple, presque 80% de nos responsables politiques qui sont des chrétiens, est-ce que les gens n'y vont pas parce qu'ils sont des chrétiens? Est-ce que les gens ne refusent pas d'y aller parce qu'ils ne sont pas chrétiens? Est-ce que dans ce cas-là, il n'y a pas ce relent religieux?
Mais bon, ce que le Constituant est en train de combattre, c'est le relent ethnique. Et bon, l'ethnie et la religion, c'est deux choses différentes. Il peut y avoir à certains moments des croisements, mais c'est des croisements, je veux dire, conjoncturels. Mais ce n'est pas quelque chose d'établi. Sinon, par rapport à la religion, le problème, je crois, ne se pose pas. Mais par rapport à l'ethnie. Bon,
Mais l'article 7 a exclu également la religion, hein, puisque l'article dit clairement qu'ils ne peuvent s'identifier à une région, à une ethnie ou à une religion. Alors, vous savez que le mimétisme fait que, par exemple, que si le leader du parti est peut-être musulman, il sera suivi par un grand groupe de musulmans. S'il est très charismatique, est-ce que de là à dire qu'il y a une identification religieuse, est-ce que le pas n'est pas vite franchi?
Non, le problème ne se pose pas par rapport à la religion, en réalité. Le problème, c'est instrumentaliser la religion dans la politique. C'est ça le problème, en réalité. Bon, on ne peut pas demander aux gens de faire abstraction de leur religion. Mais c'est lorsque le parti se confond à la religion que le problème se pose. Donc, l'identification du parti politique à une religion, c'est ça qui pose problème. Sinon, on ne peut pas demander aux gens de faire abstraction de leur religion. Non. Bon, je ne sais pas si ce que nous disons.
Non, de toutes les façons, nous aurons l'opportunité de revenir sur ces éléments-là au fur et à mesure que nous allons avancer, parce que la plupart des dispositions du titre 1 sont toujours reprises d'une autre façon ou réexpliquées d'une autre façon dans un autre titre. Mais si, par hasard, cette difficulté de compréhension demeure et qu'il n'y a pas de texte qui corrige, peut-être que l'occasion est donnée à nos constituants, à nos gouvernants, au moment de faire les lois organiques, de pouvoir voir dans quelle mesure on peut réexpliquer mieux cette partie-là pour que l'interprétation ne donne pas des problèmes. Civisme et droits du citoyen, malheureusement, pour aujourd'hui, c'est fini. Le temps nous a surpris. Nous espérons que la prochaine fois, nous disposerons de plus de temps et d'opportunités pour mieux expliquer à nos citoyens tout ce qui est lié à la Constitution togolaise. Pour aujourd'hui, c'est fini. Bien de choses à vous et que Dieu nous bénisse tous.